bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des reportages, des analyses et des commentaires, mais tout de suite le journal. En Syrie, djihadistes et rebelles prennent la majeure partie d'Alep, selon une ONG. Au sud du Liban, l'armée israélienne dit avoir mené des frappes aériennes contre le Hezbollah. Et puis la défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 3 humanitaires dans une frappe israélienne à Ran Younes.
RFI Soir.
La France appelle toutes les parties à protéger les populations civiles à Alep. Cette deuxième ville la plus importante de Syrie est tombée aux mains de rebelles djihadistes. Cela au terme d'une offensive éclair qui a fait plus de 320 victimes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans ce pays, a également fait état de raids aériens russes avant l'aube sur Alep. William Colomb nous appelle justement de Moscou.
Pour certains observateurs, une chute rapide d'Alep aux mains des islamistes serait tout de même un camouflet pour Moscou, au vu surtout des moyens énormes dépensés dans le pays depuis 10 ans. D'autres reconnaissent que l'armée russe, déjà étirée au maximum en Ukraine, n'a plus les capacités d'intervenir à nouveau en Syrie pour sauver, je cite, le clan Assad. Des critiques émergent également contre le commandement militaire russe qui aurait laissé des unités face à la mort, malgré les avertissements quant à une offensive imminente des rebelles. Mais la majorité des commentateurs rejettent toutefois la faute sur Damas, et notamment sur la couardise, je cite, et la faiblesse de l'armée loyaliste, qui se serait éclipsé d'Alep sans combattre. Damas s'était de toute façon davantage tourné vers l'Iran depuis 2020, observe aussi le correspondant de guerre très suivi, Alexander Kotz. Du côté du pouvoir russe, par contre, très peu de commentaires pour l'heure. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'est contenté de déclarer samedi que les événements en cours étaient une regrettable déstabilisation, je cite, de la Syrie. Et une rumeur extrêmement pressante depuis vendredi soir n'a pas non plus été confirmée ni infirmée. Bachar el-Assad se trouverait déjà avec sa famille à Moscou, pour qui le dossier syrien pourrait en tout cas devenir un nouveau boulet à gérer. Julien Colling, Moscou, RFI.
La branche armée du Hamas vient de diffuser une vidéo d'un otage retenu à Gaza. On y voit un jeune homme s'exprimant en anglais à l'adresse de Donald Trump et en hébreu à l'adresse de Benjamin Netanyahou. Il demande aux Israéliens de faire pression sur le gouvernement pour sa libération et celle de tous les otages encore retenus en captivité, donc à Gaza, depuis le 7 octobre 2023. Par ailleurs, la défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 3 humanitaires dans une frappe à Ran Younes. L'armée israélienne indique avoir mené une frappe sur un véhicule dans lequel se trouvait un terroriste qui a participé au massacre du 7 octobre, mais World Sandwich Kitchen qui affirme que son véhicule transportait des vivres, et cela le long de la route Salah al-Din al-Isroussar.
Deux frappes, coup sur coup. Une première qui tue 3 travailleurs humanitaires dans un véhicule qui transportait du riz et d'autres denrées alimentaires. Une deuxième qui tue 2 Gazaouis venus leur porter secours. Tous sont tués sur le coup. Nous avons le cœur brisé en apprenant qu'un véhicule transportant nos collègues a été touché par une frappe israélienne à Gaza. Voilà ce qu'a déclaré l'ONG américaine dans un communiqué précisant qu'elle n'a pour l'heure que des informations incomplètes et qu'elle attend, je cite, d'urgence plus de détails sur les circonstances. Israël, juste justifie cette frappe en disant que le véhicule visé transportait un militant palestinien recherché. World Central Kitchen déclare qu'elle n'a aucunement connaissance d'un individu dans la voiture ayant des liens avec le Hamas. Ce n'est surtout pas la première fois que l'ONG est visée. Déjà en avril dernier, un convoi de 3 véhicules de World Central Kitchen avait été directement bombardé. 7 travailleurs humanitaires avaient été tués. Aujourd'hui à Gaza, les cuisines communautaires mises en place par l'organisation n'ont pas fonctionné, laissant des milliers de Gazaouis sans nourriture. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
Et puis le Hamas publie un nouveau bilan de 44 382 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Malgré la trêve au Liban, Israël qui annonce que ses soldats ont mené des frappes contre le Hezbollah aujourd'hui. 4 frappes, dont une visant une installation du Hezbollah dans la région de Saïda, la grande ville du Sud. Elle a aussi dit avoir ciblé un véhicule militaire opérant près d'un site de fabrication de roquettes du Hezbollah. La trêve est donc plus que fragile. Nicolas Falaise, vous êtes dans la région pour RFI, vous êtes rendu sur les lieux où des obus israéliens ont tout détruit, autrement dit dans le sud du Liban.
Oui, sur des routes très encombrées où l'on voit des matelas empilés sur les toits de certaines voitures. Ces voitures, ce sont celles des familles de déplacés qui prennent le chemin du retour après le cessez-le-feu. Par la fenêtre ouverte de ces véhicules flotte parfois le drapeau jaune et vert du Hezbollah. Même couleur sur les banderoles innombrables qui, le long des routes, rendent hommage aux combattants de l'organisation chiite tués par l'armée israélienne ces derniers mois. En traversant les villages du Sud-Liban, le regard est sans cesse happé par des amoncellements de gravats, tout ce qui reste d'immeubles de plusieurs étages aplatis par les bombardements. Arrivé à Nabatieh, on y découvre un centre-ville dévasté. À pied ou au volant, les habitants ont le visage sombre lorsqu'ils constatent les dégâts, comme cette montagne de béton et de ferraille qui s'élève à la place de la mairie de la ville. Mi-octobre, le maire de Nabatieh et une partie de son équipe y ont perdu la vie. Les travaux de déblaiement commencent dans ce quartier à l'aide d'un tractopelle, parfois le plus souvent à main nue. Impossible de savoir combien de temps prendra la reconstruction.
Nicolas Falaise, envoyé spécial de RFI au Sud-Liban avec Jade Coury pour les moyens techniques. L'UE dénonce une attaque terroriste, un acte abject concernant l'attaque d'un canal au Kosovo. Cette voie d'eau est vitale pour l'approvisionnement en eau potable. Pristina a immédiatement accusé la Serbie d'avoir orchestré cette attaque, ce que Belgrade dément. Les environs du canal sont depuis hier soir protégés par la KFOR, la force de l'OTAN au Kosovo. Plus d'une centaine de personnes arrêtées en Géorgie. Cela au deuxième jour des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de reporter des discussions sur l'adhésion à l'Union européenne. Régis Janté, lui, est sur place pour Radio France Internationale.
La vidéo, faite durant la nuit de vendredi à samedi, a choqué la Géorgie. On y voit un jeune homme au sol, au milieu d'un groupe de policiers anti-émeutes, bottés et casqués. L'un d'eux s'approche de lui et lui assène un violent coup de talon. Sonné, le jeune homme se frotte le visage quand un second policier lui donne de toutes ses forces un coup de pied en pleine face, le laissant KO, sans mouvement. Les manifestations de ces deux derniers jours ont été le théâtre de nombreuses scènes similaires. Visiblement, certains activistes en vue sont ciblés, comme c'était le cas ce printemps lors des manifestations contre la loi sur les agents de l'étranger. Mais depuis deux jours, les journalistes semblent particulièrement visés par la police. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont près d'une trentaine d'entre eux qui ont été frappés en conduisant plusieurs à l'hôpital. Même chose ce vendredi soir, une journaliste de la chaîne d'opposition TV Pirveli a reçu un projectile à la tête. Elle est connue pour avoir posé des questions insistantes à Ziad Rarazijvili, dit Khareba, le directeur du département des tâches spéciales du ministère de l'Intérieur. Régis Janté, Tbilissi. RFI.
Le pape s'oppose à l'aide à mourir. François s'est exprimé au Vatican devant des parlementaires venus de France. La France où un projet de loi envisage le droit à une aide à mourir. Le sort de ce projet est en suspens alors que l'actuel gouvernement rassemble le centre et la droite, cette dernière étant historiquement très rétive à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La colère à Valence, en Espagne, un mois après les inondations catastrophiques. Les habitants demandent des comptes aux autorités régionales. Pauline Glaise, vous êtes sur place, vous êtes dans cette manifestation de protestation.
Oui, la grande place de la mairie s'est complètement remplie. Elle est d'ailleurs toujours bien pleine malgré le départ du cortège. Au-dessus de la foule dépassent des pancartes rouges avec un ruban noir en signe de deuil pour les quelques 230 morts, 222 rien que dans la région de Valence. Des pancartes avec une revendication qui tient en deux mots, maçonne démission. Les manifestants, et pour tout dire, tous les sinistrés à qui j'ai parlé, lui reprochent d'avoir alerté la population trop tard. L'un des slogans scandés à Valence au début du rassemblement, c'est « Quand l'alarme sonnait, les gens se noyaient ». Pour le fils d'une des victimes qui brandit une photo de sa mère, la démission du président de la région ne sera pas suffisante. Il veut des condamnations, maçonne en prison. Voilà un autre slogan très scandé par la foule. La foule qui lui reproche également sa gestion après la crue. Un mois après les inondations, toute la boue n'a pas encore été retirée des rues et des garages. La tâche est énorme et la population se sent abandonnée. Le manifestant vient aussi exiger que la reconstruction se passe mieux que la gestion d'urgence.
Pauline Glaise, un TGV prochainement au Vietnam, le Parlement approuve un projet de 67 milliards de dollars pour une ligne de train à grande vitesse reliant la capitale Hanoï à Ho Chi Minh Ville. La durée du trajet entre les deux villes passera de 30 heures à environ 5. En France, la ministre de l'Agriculture annonce une série de mesures visant à réduire les entraves pesant sur le secteur. Depuis presque 15 jours, les agriculteurs multiplient les actions opposées au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Une nouvelle mobilisation est prévue à partir du 10 décembre pour dénoncer la faiblesse des revenus agricoles. Ainsi va le monde. Vous écoutez Radio France Internationale. Les sports à présent avec vous, Saliou Diouf, du football pour commencer. Le champion en titre de Ligue 1 joue ce soir.
Le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes le FC Nantes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Des Parisiens qui dominent outrageusement le championnat de France. Solide leader avec 6 longueurs de plus que l'AS Monaco. Deuxième, mais Paris déçoit en Ligue des Champions. À l'image de cette nouvelle défaite en milieu de semaine sur la pelouse du Bayern Munich, 1-0. Le PSG, paradoxal, facile en Ligue 1, décevant en Coupe d'Europe. Un constat qui n'est pas partagé par l'entraîneur Luis Enrique, qui estime que son équipe est en bonne forme.
Yo creo que estamos rindiendo mejor que la temporada pasada.
Je trouve notre rendement meilleur que la saison passée. J'ai trouvé mon équipe fiable. Nous avons créé des occasions grâce à des récupérations de balles dans le camp adverse. Nous avons été à la hauteur du Bayern. Revoyez leur match. Je n'ai pas vu une équipe les mettre autant en difficulté à domicile que nous. J'ai vu beaucoup de choses positives, bien plus que vous. Vous ne jugez que sur le résultat, je comprends. Je sais que je suis jugé sur mes résultats. Je l'accepte depuis le premier jour. Mais je le répète, j'ai beaucoup aimé mon équipe.
Coup d'envoi de la rencontre, 20h, temps universel.
Et puis un match de Ligue 1 s'est achevé il y a quelques minutes. Rennes a battu Saint-Etienne.
Et c'était la première du technicien argentin Jorge Sampaoli à domicile. Et c'est un premier succès pour le nouveau technicien breton. 5-0. Des buts de Kalimuendo x3, Blas et Gouiri. Le stade rennais s'éloigne de la ligne rouge et se remonte temporairement à la 11e place du classement.
Le football en Espagne à présent. Le leader s'est incliné à domicile pour le compte de la 15e journée de Liga.
Le FC Barcelone s'est incliné dans son entre temporaire de Montjuïc face à Las Palmas sur le score de 2-1. Les Catalans ont donc désormais 4 points d'avance sur le Real Madrid qui a 2 matchs de retard. Les coéquipiers de Kylian Mbappé joueront demain après-midi face à Getafe.
L'Allemagne en Bundesliga, un choc se joue actuellement.
Le classiqueur comme l'appellent les Allemands, le Borussia Dortmund reçoit le Bayern de Munich, un choc des titans qui n'en est pas un puisque le Bayern est leader avec 10 points d'avance sur Dortmund mais actuellement c'est Dortmund qui mène 1-0.
Et puis de la voilà avec un nouveau point sur le vent des globes.
Et après avoir passé le cap de Bonne Espérance, c'est Johan Richomme de l'équipe Paprec qui domine la course. Charlie Dalin de Massif, qui a longtemps été leader, est en deuxième position. Sébastien Simon du groupe De Breuil clôt le podium. Pardon.
Salut Diouf pour les sports dans RFI Soir.
RFI Soir.
Malgré la trêve au Liban, Israël annonce donc avoir mené des frappes contre le Hezbollah. Et dans le même temps, bien les médias sont dans le viseur de Benjamin Netanyahou. Amaury de Rochegonde, parlez-nous de ces mesures de répression que prend son gouvernement contre la presse libre et l'audiovisuel public.
Oui, le ministre des Communications israélien, Shlomo Kari, cible, je cite, ceux qui soutiennent les ennemis de l'État en s'en prenant au journal Haaretz, véritable institution du journalisme créée en 1919 sous le mandat britannique. Dimanche, ce ministre venu de la branche dure du Likoud a fait adopter une résolution visant à rompre tout soutien de quelque nature que ce soit avec ce journal de centre-gauche reconnu pour le sérieux de ses enquêtes et critiques à l'égard de la guerre menée par Netanyahou. Haaretz sera donc privé de tous les abonnements des administrations, de toutes les publicités d'État, de toutes les aides publiques. Il est même interdit aux fonctionnaires de lui parler, un boycott que Kari justifie par les éditoriaux du quotidien, mais aussi par une intervention à Londres de son éditeur Amos Shoken, qui a dénoncé un cruel régime d'apartheid imposé à la population palestinienne, tout en évoquant les combattants de la liberté palestinienne qu'Israël qualifie de terroristes, je cite. Une expression dont s'est désolidarisée la rédaction, même si ce directeur a expliqué qu'il ne parlait pas alors du Hamas. En réalité, il s'agit d'un prétexte, car ce que vise Shlomo Kari, c'est surtout l'expression de voix dissonantes, notamment depuis le mandat d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou par la CPI. Un mandat d'arrêt qui, selon Haaretz, met à rude épreuve les liens politiques et diplomatiques d'Israël avec ses alliés et change la façon dont il est perçu.
Alors Amaury, l'audiovisuel public est ainsi dans le viseur du gouvernement, c'est ça ?
Et pas dans la nuance, là. Il s'agit dans les deux ans de fermer puis de privatiser Cannes, la télé publique et ses radios. La proposition de loi du ministre a déjà obtenu un vote préliminaire du Parlement. Au nom d'une idéologie d'économie libérale, dit-il, il faut en finir avec un média qui appelle, je cite, à la haine contre l'État d'Israël pour recéder les fréquences à des intérêts privés. Évidemment, une telle disposition illibérale est typique des régimes autoritaires et des mesures préconisées par l'extrême droite. Mais ce n'est pas très étonnant de la part d'un gouvernement qui interdit un média étranger comme Al Jazeera au nom de la sécurité nationale. Il a même obligé en août Cannes, le diffuseur public, à couvrir les frais de diffusion de Channel 14, une télé pro-Netanyahou, en l'installant sur la TNT israélienne. Et il prévoit d'attribuer lui-même les licences de radio sans passer par une autorité indépendante. C'est le moment de rappeler qu'Israël se flatte d'être la seule démocratie du Moyen-Orient et qu'il n'est pas de démocratie sans médias libres.
Difficile donc pour les journalistes de travailler librement en Israël. En France également, cela peut parfois être compliqué. C'est ainsi qu'en Bretagne, la vie d'une journaliste a tourné au cauchemar. Cela après l'apparition de ses articles contenant des révélations sur l'industrie agricole. Marie Casadebet nous raconte cette histoire avec l'intéressé.
Morgane Large n'est pas tranquille. Avec deux autres journalistes, elle vient de publier une nouvelle enquête sur les activités d'une multinationale minière dans une petite commune du centre-Bretagne, à deux pas de chez elle. L'expérience lui a appris à prendre quelques précautions, mais aussi à se préparer au pire.
Déjà, je cache mon adresse. Je fais adresser mon courrier au centre communal d'action sociale de ma commune. On ne sait pas où j'habite. Mais ce dont j'avais peur, c'était qu'il y ait des représailles sur mes collègues ou ma radio. Enfin, on s'est déjà fait forcer deux fois les portes de la radio. Pour l'instant, c'est pas très, très inquiétant.
Cette nouvelle enquête a failli ne pas exister. Il y a un peu plus d'un an, Morgane Large envisageait d'abandonner le journalisme. Trop dangereux. Surtout lorsqu'on révèle les pratiques de la puissante filière agroalimentaire en Bretagne. Fin 2020, son visage apparaît sur le petit écran. Elle témoigne dans un documentaire télé de certaines dérives. Sa vie bascule.
Des menaces, puis des coups de fil la nuit, puis l'empoisonnement de mon chien, puis mes animaux qui ont été mis en divagation. J'avais des vaches et des chevaux. Ça a été un peu crescendo comme ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte, par hasard, qu'il manquait deux boulons sur la roue arrière de ma voiture.
Elle porte plainte, mais l'enquête aboutit à un non-lieu, faute de preuves. Elle demande une protection policière, elle ne l'obtient pas. Avec ses collègues de la radio associative pour laquelle elle travaille en parallèle, elle décide de médiatiser son histoire pour se protéger. Cela ne suffira pas.
Deux ans plus tard, je me sentais à l'abri. J'ai pris un rond-point, j'ai entendu énormément de bruit. Je suis allée chez le garagiste et le garagiste a soulevé un côté de ma voiture et tous mes boulons avaient été déboulonnés. Et la réouverture d'enquête n'a pas eu lieu.
La peur, le sentiment d'abandon ont bien failli avoir raison de cette journaliste qui vit au plus près de ceux qu'elle dérange.
Moi, il y a quand même eu toute une période où j'ai beaucoup moins bien travaillé. J'avais des problèmes d'efficacité et de concentration. Et puis ensuite, je pense que je me suis auto-censurée parce que j'avais pas envie d'avoir des ennuis. Et puis là, j'ai repris l'enquête grâce à un collectif qu'on a créé où j'ai l'impression que le fait d'être à plusieurs, eh bien, ça dilue un petit peu la cible qu'on peut représenter. Et puis moi, ça m'a reboostée. J'ai beaucoup travaillé seule. Là, c'est quand même un super confort de travailler à deux ou trois.
La nouvelle enquête de Morgane Large est ainsi à lire sur splane.org. Si sa voiture est toujours régulièrement souillée, la journaliste préfère nous raconter toutes ces fois où, au milieu d'une manifestation d'agriculteurs, elle peut recevoir aussi des encouragements.
Cela se passe en Bretagne. RFI Soir, il est maintenant 19h passé de 18 minutes. Et feuilletons un livre écrit à plusieurs mains, celle de Russes courageux, des journalistes, des militants, des intellectuels qui réprouvent la guerre contre l'Ukraine. Ils sont 15 et cela donne 15 récits pour comprendre leur parcours, leur lutte, leur courage, le courage qu'il aura fallu pour dire non à cette guerre. Ces Russes qui s'opposent à la guerre, c'est aux éditions du Petit Matin. L'un de ses auteurs, Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie Liberté, en dit plus à Daniel Vallaud.
Bonjour Olga Prokopieva.
Bonjour.
Vous êtes co-autrice de ce petit livre qui dresse le portrait de 15 opposants russes, des profils variés, des générations différentes. Également, bien sûr, la plupart en exil. Certains sont encore en Russie et vous avez bien sûr évité dans ce cas de donner leur nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Russie, après plus de 1000 jours de guerre, il est encore possible de s'opposer à la guerre en Ukraine et à Vladimir Poutine ?
L'opposition est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on parlerait plutôt de résistance, à tel point qu'il est très difficile justement de s'exprimer et d'agir contre la guerre et contre le régime en étant à l'intérieur de la Russie. Donc là, on a envie plutôt même de parler de 15 personnalités de la résistance, même si certaines sont en exil et agissent de manière différente. À l'intérieur de la Russie, même un simple affichage ou une expression sur les réseaux sociaux critiquant la guerre, critiquant l'armée, critiquant Poutine, vous conduit en prison. Il y a 1400 aujourd'hui prisonniers politiques selon les estimations. Et encore, ce ne sont que des estimations. Et quand on dit prisonniers politiques, c'est tout simplement des personnes qui expriment une opinion.
Les actes de résistance, puisque vous utilisez ce terme, aujourd'hui en Russie, ça consiste en quoi ? Des collages d'affiches, des journaux qui sont distribués dans les boîtes aux lettres ? On sait que ça a existé, ça existe encore aujourd'hui ?
Alors les journaux, oui, c'est le mouvement résistance féministe anti-guerre qui a par exemple une gazette qui s'appelle La Vérité des Femmes. Et en effet, elle distribue cette gazette dans les boîtes aux lettres. Et l'objectif, c'est surtout de viser plutôt des femmes 40+, voire 50+, et de leur parler de la guerre, d'avoir un autre regard, même tout simplement, sur la vie au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes sont dans une sorte de bulle, puisque l'ensemble des médias indépendants ont été fermés et poussé à l'exil.
Dans ce livre, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a plusieurs générations d'opposants. On a Liev Ponomarev, qui a connu la dissidence à l'époque soviétique. On a aussi des jeunes qui sont nés sous Poutine. Et j'ai l'impression qu'il y a pour tous un point commun, c'est quand même ce point de bascule qui est le 24 février 2022, c'est-à-dire le début de la guerre.
Il est vrai, en fait, il y avait déjà des soulèvements et des mouvements de jeunesse démocratique, comme par exemple Vesna, le mouvement qui existait déjà bien avant le début de l'invasion massive de l'Ukraine. Mais depuis l'invasion massive, il y a eu un tel choc, en fait, dans la société russe, qui s'est d'ailleurs traduit par des manifestations massives dans les premiers jours qui ont suivi cette guerre d'invasion. Et il y a eu plus de 20 000 arrestations dans les premiers mois. Mais cette guerre, en fait, c'était quelque chose d'impensable pour beaucoup, beaucoup de Russes. Même ceux qui, aujourd'hui, ne se considèrent pas comme des militants ou qui restent plutôt muets, ils sont aussi sous le choc. Personne ne pensait que Poutine serait capable d'aller jusqu'à attaquer l'Ukraine et massacrer des Ukrainiens.
Il y a une expression qui revient aussi beaucoup dans la bouche de ces 15 opposants, c'est l'espoir du premier vol, c'est-à-dire l'espoir du premier avion. Qu'ils prendront ceux qui ont fui la Russie le jour où Vladimir Poutine ne sera plus au pouvoir. Mais c'est pas se bercer un petit peu d'illusion que de penser aujourd'hui à la chute de Vladimir Poutine ?
Non, je pense qu'on doit penser dès maintenant à ce que la Russie de demain doit être, à réfléchir à comment la réformer, aux erreurs à ne plus commettre pour que la Russie devienne un pays pacifique, mais aussi non impérialiste, que toutes les personnes impliquées dans les crimes de guerre soient poursuivies. Il y a vraiment un besoin de réforme en profondeur et beaucoup de personnalités de la société civile et de l'opposition travaillent déjà à ces réformes-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'aider l'Ukraine parce que nous savons que sans la victoire de l'Ukraine, le régime poutinien restera. Et donc oui, il y a des mouvements qui pensent déjà à la Russie de demain. Je pense à Anastasia Burakova qui a justement ce projet qui s'appelle Premier Vol et dont l'objectif est de former une communauté prête à réformer, prête à repartir en Russie dès que le régime tombera pour travailler ensemble à la magnifique Russie du futur, comme Alexei Navalny nous l'a laissé en prophétie et comme il l'a nommé.
Olga Prokopieva, qui témoigne dans Ces Russes qui s'opposent à la guerre, un livre publié par les éditions du Petit Matin.
RFI Soir. Philippe Le Caplin.
Alors que se tient la conférence sur le plastique à Busan, en Corée du Sud, intéressons-nous à ces petites mains du plastique. Ils viennent témoigner, ces travailleurs, de leurs conditions de vie devant les participants de cette grande conférence internationale. À travers le monde, ce sont plus de 21 millions de personnes qui travaillent dans des déchetteries de plastique où aucune mesure sanitaire n'est respectée. Écoutez ce reportage de Celio Fioretti.
John Chouya est kényan. Il a fait tout le chemin jusqu'à Busan, en Corée du Sud, pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours.
Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21
ans. Un travail éreintant de collecte et tri des déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques.
Plastic has a very negative impact on...
Cela impacte notre santé. Je suis allé à plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. Quand le plastique brûle, les ramasseurs inhalent 16 000 différents produits chimiques sous forme de plastique brûlé. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de mes collègues depuis des années ont des symptômes qui paraissent cancéreux.
A lot of my colleagues over the years have experienced symptoms that to me seems cancerous.
Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger.
Le message que je veux partager avec les autres pays présents ici est que nous, les ramasseurs de plastique, représentons plus de 21 millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas un chiffre qu'on peut ignorer. J'aimerais dire à tous les pays ici que le traité doit être juste. Il faut qu'ils se rendent compte que ce traité tient entre ses mains la vie, l'avenir et les familles de 21 millions de ramasseurs de plastique à travers le monde.
Après la conférence, John Chouya retournera dans la décharge, mais espère continuer son travail en sachant être protégé. C'est le Fioretti, Busan, RFI.
Paris, 89 FM.
Et donner une leçon de piano avec Chopin. C'est le titre de ce spectacle, écrit, interprété, joué par Pascal Amoyel. En décodant la méthode piano méconnue, écrite par Frédéric Chopin, et les témoignages de ses rares élèves, il imagine une lecture de la ballade numéro 1.
Tout ça, ce sont des mots de Chopin. Ce sont des mots tirés à la fois des témoignages de ses élèves, et puis aussi d'une méthode. Donc il y a une méthode de Chopin qui est très peu connue, y compris des pianistes eux-mêmes, des 12 feuillets qu'il a écrits tout au long de sa vie, et en français. Et il y a des pépites à l'intérieur extraordinaires. Moi-même, quand j'étais au conservatoire de Paris, et que c'était difficile, j'avais 18-20 ans, souvent je jouais Chopin, et on me disait « non, faut pas faire ça comme ça, faut pas faire ça comme ça », et bien sûr, mais parfois je perdais confiance, et je me disais « mais alors s'il faut pas faire comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ou qu'est-ce que je peux faire ?» Et je m'imaginais dans ma tête un petit peu comme si Chopin était à côté de moi, comme c'était à la fois le compositeur que l'on sait, mais aussi un très grand professeur. Je me dis, mais si, qu'est-ce qu'il m'aurait dit si j'avais été son élève? Chopin donnait des images souvent, notamment pour exprimer ce qu'il appelait le rubato. Le rubato, c'est de l'italien rubare qui veut dire dérober. Et donc, en fait, on vole du temps en accélérant un tout petit peu, si vous voulez, la pulsation. C'est un peu comme le vent. Tout d'un coup, il y a un peu de vent, il y a moins de vent, il y a plus de vent. Et lui prend l'image que la main gauche est comme un tronc de l'arbre, le tronc de l'arbre stable, et que la main droite c'est les feuilles mouvantes. Et donc il dit, sois stable avec ta main gauche, comme un maître de chapelle, et ta main droite doit faire ce qu'elle veut et ce qu'elle peut.
Et donc à partir de ces écrits et des dires de Chopin, Pascal Amoyel redonne vie au compositeur polonais dans un dialogue imaginaire. Et cette sorte de masterclass de Chopin, telle que le maestro en donnait à ses élèves, est à découvrir dans le beau théâtre du Ranelagh à Paris, et ce sera jusqu'à la mi-janvier. Du Chopin sur RFI et dans une minute maintenant, ce sera l'actualité en Afrique.
Tout à l'heure sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'intelligence artificielle est présentée comme l'avenir de nos économies. Mais dans les faits, rend-elle les salariés plus productifs ? Et les entreprises de l'IA sont-elles déjà rentables ? Certains investisseurs commencent à exprimer ouvertement leurs doutes et parlent d'un grand mirage financier.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.
100% création, Maria Afonso.
La cathédrale Notre-Dame de Paris réouvre en décembre, 5 ans après son incendie. Découvrez avec 100% création une série spéciale autour des compagnons, artisans ou designers mobilisés sur ce chantier. Ce dimanche 1er décembre, à 7h55 et 12h54 TU, découvrez le secret des échafaudeurs, un métier qui se révèle être un pilier de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.